Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Les Républicains entendent bien imposer leurs exigences pour accorder leur vote à la réforme des retraites. Il y a évidemment un sacré marchandage politique en cours actuellement. Et notamment le point d'accroche pour les Républicains, c'est la fameuse histoire des gens qui ont commencé à travailler à 20 ans et qui, s'ils doivent attendre 64 ans, n'auront pas cotisé 43 ans, mais 44 ans. Clairement, en tout cas, la bataille de l'opinion semble perdue. Puis la réforme de l'assurance chômage est entrée en vigueur hier. Alors, est-elle le sésame du retour au plein emploi? Je posais la question. On évoquera aussi cette expérimentation annoncée par Gabriel Attal, la semaine de 4 jours. 36 heures en 4 jours, ça se passera sur la base du volontariat et ça va se jouer auprès des URSSAF de Picardie. Puis j'aimerais bien qu'on dise un petit mot quand même de l'inflation et de la réaction des banques centrales. La Réserve fédérale a relevé son taux pour la 8e fois d'affilée hier, mais elle ralentit le rythme, 25 points de base. Elle prévient malgré tout que ce n'est pas terminé et la BCE aujourd'hui devrait imposer 50 points de base, ce qui amènerait le taux de dépôt à 2,5% et le taux de refinancement à 3%. C'est un plus haut niveau depuis 2008. On a toujours ce débat pour savoir si les banques centrales en font trop, si elles doivent s'arrêter et si finalement elles peuvent aujourd'hui causer plus de mal que de bien en prenant le risque de précipiter une récession qui, pour l'instant, ne s'est pas encore vue dans les indicateurs macroéconomiques. Stéphane Carcillo, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes responsable de la division Revenu-Travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Gilbert Sette, bonjour.
Bonjour.
Professeur d'économie à Neoma Business School, vous avez publié Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique. Je vous fais réagir à cette interview que vous avez accordée au Figaro samedi. Il n'y a pas de grande flemme française. Voilà, vous accordiez cette interview samedi et le lendemain, quelques heures après, Gérald Darmanin en mettait une couche sur le terrain politique. Voilà. Sur le thème, le travail ne tue pas, le travail n'est pas une maladie, donc mettez-vous au boulot. Voilà, c'était un peu ça la thématique et ça a créé pas mal de polémiques. On attend Gaël Sliman de l'Institut Odoxa, on ouvrira avec lui notre baromètre mensuel avec AJP, Challenge BFM Business. Voilà, des questions concernant la réforme des retraites avec notamment une dont les réponses m'ont un peu surpris. Comment vous entendez la position des Républicains, Gilbert Sette? Avant de revenir dans le détail sur les carrières commencées à 20 ans, peut-être les trimestres des femmes.
Alors déjà, les Républicains, c'est beaucoup dire, c'est chaque Républicain.
Oui, en plus c'est ça.
Chaque Républicain a sa petite proposition pour dire il faudrait changer la réforme de tel et, sur tel et tel plan. Donc dans une situation où la majorité est courte, sera courte, il est clair que beaucoup de voix individuelles se font entendre pour assurer leur réélection aux prochaines élections en disant « Regardez, moi je suis intervenu, j'ai réussi à modifier ce projet de telle et telle façon, etc. » Bon, c'est une surenchère. Il faut espérer que cette surenchère ne va pas menacer en quelque sorte le vote de la loi ensuite dans les semaines qui viennent. Alors, sur les différents points, celui qui est mis en avant aujourd'hui, c'est les fameux 44 ans pour les personnes qui ont des carrières longues, qui partiraient avant. La logique de ce 44 ans est assez forte, hein. Ça consiste à dire, les carrières longues qui peuvent partir avant ont donc, toutes choses égales par ailleurs, une espérance de retraite plus importante. Cette espérance de retraite plus importante coûte. Et compte tenu du fait que ça coûte, il est assez logique de leur demander une durée d'activité un petit peu plus longue.
Oui, mais quand vous dites 43 ans et que vous en faites un chiffre totem et que certains sont soumis à 44 ans.
Alors, évidemment.
Les carrières longues, c'est 27,2 mois, la durée de retraite.
Alors, évidemment, on peut pas faire quelque chose de très fin dans une réforme des retraites qui serait une neutralité actuarielle complètement exacte pour ceux qui partent en carrière longue, etc. Bon, ça n'est pas possible. Donc, il y a des chiffres ronds, simples, qui sont mis en avant. C'est 44 ans pour les carrières longues. Le principe, en tout cas, est tout à fait
pas
juste.
Pas toutes les carrières longues.
Pas toutes les carrières longues.
Principalement ceux qui ont commencé à 20 ans. Hein.
Pas toutes les carrières longues. Alors, le principe est assez logique pour l'équilibre des caisses de retraite et pour des raisons d'équité, encore une fois, puisqu'il y a une espérance de retraite un petit peu plus longue.
Je crains que ce ne soit pas audible comme argument.
Pour ces personnes-là.
Si vous dites équité, et je pense que le contraire, et c'est l'inverse qui est perçu par l'opinion.
Alors, je rappelle quand même que dans l'effet de cette réforme sur les finances publiques, le tiers est redistribué. Le tiers est redistribué, que ce soit dans
presque 5 milliards de redistribution sur 17 d'économie.
Voilà, minimum contributif, 2 milliards. Bon, le tiers est redistribué. si on passait tout le monde à 43 ans, ça serait encore 2 milliards. 2 milliards de coûts et de recettes en moins.
C'est même plus que ça. Ça, c'est le cas des 20 ans. Mais si toutes les personnes qui ont validé, c'est un chiffre qui a été mis au jour par Marc Vigneault de l'Opinion dans le journal d'hier, si tous les gens qui ont validé les 43 ans travaillent bien juste 43 ans, ça fait pas mal de monde en fait. Ça fait environ pas loin de 25% des départs annuels. Et à ce moment-là, on serait sur une facture à 10 milliards d'euros en 2030.
Ah ben dans ce cas-là, il y a plus.
Si l'ensemble de ces gens qui partent en ayant plus cotisé que ce qu'on prévoit normalement, la règle de base, eh bien, on est sur quelque chose qui aurait tendance pratiquement à annihiler les effets.
Oh, mais il y a plus de gains. Il y a plus de gains pour l'équilibre des retraites.
Donc ça veut dire qu'un LR globalement va dire non si on lui trouve pas une solution là-dessus. Et si on trouve une solution là-dessus, c'est plus la peine de faire une réforme.
À l'horizon 2027, sur le financement des retraites, c'est 8 milliards hein, pour l'instant le gain tel qu'il est calculé. Donc si le coût que vous évoquez est réellement de 10 milliards, il y a plus de gains. Il y a plus de gains. Le seul gain est un gain indirect pour les finances publiques via le fait que le PIB augmente un peu, donc ça entraîne des recettes publiques supplémentaires.
On a calculé, il a été calculé qu'on approchait les 2 milliards d'euros si les 20 ans travaillaient 43 ans et pas 44 ans, mais si l'ensemble de ceux qui ont des cotisations, qui ont dépassé la durée limite de cotisation, partent vraiment pile, là, à ce moment-là, la facture est super salée. Est-ce que vous voyez du grain à moudre, Stéphane Carcillo? Est-ce qu'il reste une... J'ai l'impression que de toute façon, on peut proposer n'importe quoi, les gens qui sont contre. On le verra d'ailleurs avec Gaël Slimane, bonjour Gaël, Dodoxa. On pose n'importe quelle question, la réponse est non hein, maintenant. Mais est-ce qu'il y aurait encore, au moins politiquement, une solution? Parce que là, j'ai l'impression que c'est le corner.
Je pense que du point de vue vraiment de l'opinion, tel que c'est, ça va être très très dur de faire basculer l'opinion.
Mais si vous dites aujourd'hui on va à 60 ans le départ, il y a quand même des manifs. Hein.
Oui, donc de toute façon, c'est très très dur de convaincre l'opinion. On verra le sondage. Il y a même des réponses qui sont tout à fait étonnantes sur l'impact sur les finances publiques.
Oui, c'est extraordinaire.
Maintenant, c'est une question vraiment politique, d'arbitrage politique avec ceux qui veulent bien voter la réforme, en essayant évidemment d'éviter d'annuler tous les effets. Moi, ce qui me frappe, c'est que on discute pas beaucoup des mesures en faveur de l'emploi des seniors, qui sont pourtant des éléments importants d'accompagnement de la réforme.
Beaucoup des mesures d'emploi des seniors.
Il y a l'index.
Il y a l'index. Que certains voudraient contraignons avec sanction.
Mais... Voilà. Il y a le principe d'une discussion annuelle, mais que c'est pas non plus obligatoire. Et ce qui me frappe, c'est que l'index, c'est très bien. Maintenant, on a l'impression qu'on sait à peu près faire. Ce qui me frappe, c'est que quand je compare par rapport à la réforme de 2010, il y avait eu en 2010 une mesure très très forte sur l'emploi des seniors, qui était l'obligation d'avoir un accord senior ou un plan d'action de la part de l'employeur, avec à la clé une pénalité, si on ne faisait rien, de 1% de la masse salariale.
Donc, il y avait... Ça a été suivi d'effet, cette mesure?
Ça a été bien suivi d'effet.
On n'en a jamais parlé.
Il y a eu plein d'accords qui ont été signés, mais en 2015, en 2012 ou 2013, cette mesure a été supprimée à la faveur du contrat de génération de Hollande.
J'avais complètement zappé là cette histoire.
Ça a été supprimé. Et c'était dommage que ça crée une discussion dans les entreprises sur le sujet des seniors, qui est vraiment nécessaire. Donc, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, plutôt que de se porter maintenant sur la question de l'employabilité des seniors, comment est-ce qu'on fait, ça devrait vraiment être là que devrait se porter, à mon avis, l'attention, parce que les éventuelles difficultés seront là.
C'est le sujet pour moi, mais
on se porte plutôt sur les effets de bord de la réforme, au risque d'annuler son impact financier. Donc je pense que cette réforme, elle est quand même avec un âge reporté de 2 ans et une durée de cotisation de 43 ans pour la
41,5 aujourd'hui.
Aujourd'hui. Cette réforme, elle est quand même très équilibrée par rapport à ce qu'on voit dans les autres pays européens.
La comparaison avec les autres pays européens exaspère les opposants à la réforme. Arrêtez de nous comparer avec les autres, on est en France.
Mais le problème, on est peut-être en France, mais les autres pays européens ont fait des réformes le plus souvent beaucoup plus ambitieuses, en montant l'âge jusqu'à 65, voire 67 ans. alors sur un horizon assez long, mais avec un horizon jusqu'à 67 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient les mêmes sujets que nous, d'autres pays européens qui ont une démographie qui est en déclin et qui ont le sujet de financement de la protection sociale. Et en France, on va avoir un très 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 gros sujet. Comme je vous l'ai dit, on a déjà aujourd'hui 60 seniors de 50 ans et plus inactifs pour 100 travailleurs. D'accord. En 2050,
60 seniors de 50 ans et plus
inactifs.
Inactifs, hein, voilà. Pas forcément.
On parle
au chômage.
Des 50 ans et plus inactifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent être au chômage, ils peuvent être déjà en pré-retraite ou en retraite pour les 60 ans et plus.
Il y a quand même pas mal de départs anticipés, notamment du fait des régimes spéciaux.
Voilà. Il y en a 60, donc qui ne travaillent plus, d'accord.
Sur 100.
Pour 100 travailleurs qui cotisent. En 2050, il y aura 80 50 ans et plus qui ne travaillent plus.
50 ans et
pour 100 travailleurs. C'est insoutenable pour les finances publiques, c'est insoutenable pour non seulement pour le régime des retraites, mais pour toute la protection sociale. Hein,
ouais.
Parce que derrière, il y a la santé, il y a tout ça. Donc c'est totalement insoutenable. On connaît exactement les leviers. Hein. Il y a deux leviers qui sont pas possibles parce que les prélèvements obligatoires en France sont au taquet. On est au maximum des pays de l'OCDE, donc relever encore les cotisations. De toute façon, ça fera baisser les salaires. Donc c'est pas le moment. En plus, ça fera baisser les salaires.
L'argument de certains est de dire on est tous prêts à payer 20 euros de plus par mois pour gagner 2 ans de travail.
Oui.
J'ai entendu ça.
Oui.
Ça représenterait 20-22 euros par mois pour un salarié.
Oui, en moyenne. Mais...
Oui, en moyenne, oui, bien sûr. Bon. Enfin, aux alentours de 2000 euros de revenus, un truc comme ça.
Mais donc, c'est... le problème, c'est qu'on dit ça à chaque fois.
Donc vous dites, le levier cotisation, non, on est déjà au taquet.
Voilà.
Et,
sinon, on baisse les pensions. Voilà, donc on fait un peu ce que fait l'Agirc-Arrco. Hein. Tendanciellement, ils augmentent un peu les cotisations, ils baissent un peu les pensions. L'Agirc-Arrco, d'ailleurs, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que l'Agirc-Arrco a quand même déjà relevé l'âge du taux plein à 63 ans, avant même qu'on fasse cette proposition de relever l'âge à 64 ans, hein, en 2015. Si vous partez avant 63 ans, vous avez une pénalité de 10%. Pendant 3 ans. Donc voilà, on voit bien que il y a pas, si on veut conserver un niveau de remplacement des pensions, il n'y a pas énormément d'options.
Oui, c'est quand même impressionnant d'imaginer qu'on a à peu près un quart des, il y a 800 000 départs à la retraite par an, il y en a environ 200 000 qui partent en ayant cotisé plus que la limite exigée. Oui. Ça fait quand même beaucoup de monde. La bataille de l'opinion, c'est mort, la Gaëlle Simon.
Ah oui, la bataille de l'opinion.
On vous entend pas, le micro est peut-être pas le bon, je sais pas, allez-y.
Alors, est-ce qu'on m'entend?
Oui, ça y est, c'est bon, voilà. Là, ça y est.
La bataille de l'opinion, oui, c'est mort, elle est terminée.
Elle est terminée,
il n'y a aucune.
Plus rien n'est audible, plus rien ne percute.
Alors, non, bataille de l'opinion perdue, que je m'explique, ça signifie qu'en aucun cas, il ne sera possible de retourner l'opinion publique sur cette question, de convaincre les Français que faire cette réforme avec l'aspect le plus urticant qui est le relèvement de 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite, ce serait une bonne mesure de suivre ce que Stéphane vient d'indiquer en se disant oui, c'est convaincant, il a raison. Si le gouvernement n'y parviendra pas, ça on le sait déjà, et je pense que le gouvernement l'a intégré, mais on le savait depuis longtemps.
Parce oui,
que, finalement, depuis qu'est envisagé chez Macron, premier mandat et se présentant comme candidat, cette affaire de réforme des retraites non plus systémique mais paramétrique avec le report de 2 ans de l'âge légal ou de 3, puisqu'à un moment il envisageait 65 ans, depuis qu'on sonde sur le sujet, tous les baromètres donnent la même indication. Les Français sont convaincus de ce que vient d'expliquer Stéphane, c'est-à-dire que le système ne pourra pas continuer.
Alors on accepte que le système est en sursis, mais on refuse les solutions.
Non mais attendez, moi mon job c'est de regarder l'opinion publique.
Oui,
ce que nous disent les gens, en essayant de ne pas caricaturer.
D'accord.
Ce que nous disent les gens, c'est notre système de retraite, on y est attaché. 1. 2. Il est mort, ça ne marchera pas. Il ne peut pas durer si on ne réforme pas. Donc il y a une demande de réforme. 4. L'affaire du nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités est à peu près intégrée par une majorité de la population. Il y a une partie des Français qui ont la nostalgie de la retraite à 60 ans, mais la plupart considèrent que c'est pas trop possible. En revanche, ce qui bloque, ce qui gêne, c'est qu'on décide que la règle, cela sera la règle de l'âge légal. Les gens veulent avoir le choix de partir. Les gens estiment que la durée de cotisation est le paramètre le plus juste. Que
c'est vrai,
si,
c'est vrai d'ailleurs.
Que si on doit, vrai. Que si on doit.
Non, c'est pas vrai. Alors,
pas
vous me direz.
Je suis arrivé. Pardon. pour mon retard. Je suis arrivé en retard et je vous ai, j'ai entendu la fin de votre propos sur est-ce juste ou pas juste de demander aux gens qui ont commencé, si j'ai bien compris, à travailler plus tôt, de finalement en faire un peu plus.
44 ans au lieu de 43. Ça, c'est urticant pour les LR.
Alors, c'est urticant et c'est incompréhensible pour les Français. Oui. Parce que le deal.
Je comprends ce que dit Gilbert, mais c'est vrai que c'est.
Ah, bah non, le deal normal pour les gens, c'est. On met une règle du jeu. D'ailleurs, on sait qu'elle n'est pas respectée parce qu'il y a plein d'exceptions, notamment pour les salariés du public, etc. Mais on a une règle du jeu. On cotise 42 ou 41, puis un jour 43, 44, 45, pour pérenniser le système. Mais ceux qui ont commencé à travailler plus jeunes, pour tout le monde, il est plus que logique qu'ils puissent partir plus tôt, et même peut-être un peu avant la durée de cotisation max qu'on doit faire, puisque, en général, ce sont des personnes qui sont, pense-t-on, plus pauvres, qui sont moins diplômées, qui ont une espérance de vie qui est plus faible. Donc, pour toutes ces raisons-là, cette réforme des retraites, on ne pourra pas, le match de l'opinion ne pourra pas être gagné. Et quand vous me demandiez, quand vous nous demandiez quelles sont les solutions, le grain à moudre, enfin, il n'y en a pas 36, c'est pas compliqué. Il y a une solution qui est en arrêter avec l'âge légal.
Je renonce aux 64.
Tant qu'Emmanuel Macron n'aura pas renoncé au scalp de l'âge légal, il aura l'opinion publique contre lui. Alors après, ce que se dit le gouvernement, et je vais faire court, mais c'est que c'est pas très grave. Parce que fondamentalement, pense-t-il, les Français sont résignés. Ils sont pas d'accord, ils soutiennent les manifs, mais ils sont résignés. Mmh. C'est totalement faux. Dans toutes les enquêtes que nous réalisons, on voit qu'il n'y a pas de résignation, mais qu'il y a une colère qui monte. Ce qui veut dire que si les syndicats ne gagnent pas le bras de fer, ou n'obtiennent pas des concessions fortes, peut-être sur les femmes, sur l'aspect des trimestres qu'on retire
oui,
aux femmes.
Trimestres de maternité.
Voilà. En gros, une femme qui a deux enfants, elle part 4 ans avant, donc si elle devait partir à 66, elle pourrait partir à 62.
Oui, on regarde
sa cotisation.
Non, mais c'est ça, oui.
Et donc, on va lui dire, tu vas devoir aller jusqu'à 64. Et ça, c'est absolument incompréhensible, y compris de la part d'un gouvernement qui a dit, à juste titre, que les femmes étaient... On a des gros baromètres sur la retraite qu'on fait avec Groupama Ganvi, où on voit que les femmes sont... Il y a une inégalité majeure entre les femmes et les hommes à la retraite.
Elles en termes de niveau,
elles restent plus longtemps. Elles ont un niveau de pension qui est plus faible. Elles sont 47% à avoir connu des carrières hachées ou compliquées qui leur font des pensions moins importantes et un départ plus tardif. Donc, le gouvernement en avait conscience et en 2019, il avait dit, dans notre réforme, qui à l'époque était plus systémique, on a intégré plein de paramètres pour aider les femmes et notamment celles qui ont eu des carrières hachées. Absolument. Tout ça est passé à la trappe. Et ce que les gens retiennent, c'est que les principales victimes de cette réforme sont les femmes. Donc, le grain à moudre, c'est sans doute revenir sur les 64 ans. Si vraiment c'est trop difficile pour Emmanuel Macron en termes de politique, parce que ça constituera un trop grand désaveu, au moins le faire pour les femmes sur cette affaire de trimestre. Parce que sinon, même une fois le texte voté, il n'est pas dit que le dentifrice puisse rentrer dans le tube. Là, on a affaire à des syndicats. Donc tout ça est organisé. Si demain les syndicats, ce qu'a dit la CFDT, dit bon bah si on perd la bataille à l'Assemblée, on arrête les manifs, c'est pas du tout évident que les manifs s'arrêtent.
Je vois ce que vous voulez dire. Gilbert Sept, par rapport à tout ce qui a été dit, alors effectivement, l'effet waouh, c'est, je reviens, je dis clause de revoyure 2027, on voit où on en est.
On joue arrête. Que sur la cotisation et puis basta. L'accélération de Touraine.
Oui, mais alors là, les effets d'économie en 2030 ne sont pas les mêmes. Hein. Bon, alors par rapport à ce qu'on a dit, on a parlé de l'emploi des seniors, et à mon avis, c'est vraiment un sujet qui est le plus mal renseigné et le plus mal étudié dans cette histoire. On a parlé éventuellement de solutions pour les femmes. C'est difficile de savoir qui dit vrai sur les femmes. Moi, j'ai vraiment regardé. J'ai du mal à me faire une opinion définitive pour savoir si elles sont perdantes de cette réforme ou pas.
Pardon, mais c'est sûr. Là, pour le coup, il n'y a aucun doute.
C'est sur quoi?
Sur l'affaire de la maternité.
Ah, sur la maternité, oui.
Bah oui, mais ça concerne quasiment toutes les femmes. Les femmes, la plupart des femmes ont des enfants.
Bon, on fait réagir Gilles Berset par rapport à ça.
Trois petits points. Déjà, les 64 ans ne concerneront que, si j'ose dire, 60% des personnes.
Dans le micro, Gilbert, dans le micro.
Les 64 ans ne concerneront que, si j'ose dire, 60% des personnes.
Au moment de leur départ
à la retraite. Donc ça veut dire qu'il y a 40%, c'est pas négligeable, des personnes qui partiront avant. Deuxièmement, pourquoi tant de pays ont introduit une mesure d'âge? Et pourquoi cette mesure d'âge est importante? Parce que cette mesure d'âge, c'est pas simplement l'équipe des retraites qui est en jeu. C'est aussi le produit intérieur brut par habitant. C'est aussi notre niveau de vie. C'est aussi la situation des finances publiques. C'est-à-dire le fait de gagner quand même presque un point de PIB par année supplémentaire d'activité, c'est quelque chose de considérable. Pourquoi dans des pays comme les Pays-Bas?
Vous le rappelez ça, hein, une année d'activité en plus, c'est
0,75.
C'est du PIB 0,75. En plus.
Non, mais c'est du PIB en plus.
C'est fondamental.
Et du PIB en plus, c'est des revenus en plus, c'est du pouvoir d'achat en plus. Pourquoi le niveau de vie par habitant est supérieur dans des pays comme les Pays-Bas, comme les pays nordiques et scandinaves, comme l'Allemagne, au nôtre? C'est pas simplement parce que le taux de chômage y est plus bas. C'est aussi. Et c'est surtout, eh bien, parce que les gens travaillent plus, le taux d'emploi dans la population en âge de travailler est considérablement supérieur dans ces pays-là. On ne peut pas vouloir à la fois du pouvoir d'achat, du niveau de vie, sans justement aller dans cette mesure d'âge. Alors, pour les femmes, il y a énormément de paramètres qui jouent dans ce projet de loi. Il y a le fait que l'âge de la décote reste à 67 ans.
Ça, c'est important, oui.
N'est pas repoussé. Il y a évidemment le minimum contributif. Il y a évidemment l'intégration, par exemple, des périodes de congé parental qui va être pris en compte. Donc, c'est quelque chose de complexe. On ne peut pas prendre en compte un paramètre en disant, au vu de ce paramètre et de ce seul paramètre, la situation est défavorable pour les femmes. C'est très, très complexe à prendre en compte.
On marque une pause.
Et d'ailleurs, juste ce débat, si on voulait le faire complètement sur l'égalité homme-femme, faisons-le complètement. Il y a une espérance de vie supérieure. Pour l'instant, dans notre système de retraite, il y a un transfert phénoménal qui se fait des hommes vers les femmes. Est-ce qu'on veut vraiment y aller complètement? C'est quelque chose d'une complexité.
Il y a 5 ans.
Inouïe.
5 ans de plus pour les femmes.
5 ans d'espérance de retraite.
En retraite,
voilà.
Bien sûr.
Oui, il reste plus longtemps à
c'est
la retraite.
C'est considérable.
On marque une pause. On regardera ce qu'est les réponses du baromètre Doxa. Ce qui m'a frappé, c'est que quand je disais au début, la bataille de l'opinion est perdue, j'entends des quantités de gens qui ont des certitudes. Et vous leur expliquez que leurs certitudes sont erronées et ils pensent que vous mentez. Hier, j'entendais un policier qui était gréviste, très bonne foi, il dit « Moi, je fais grève parce que je veux que mes enfants aient une retraite. Ben, » si on ne change rien, il est sûr que ses enfants n'en auront pas. Mais il pense l'inverse.
Et au-delà de la retraite, le niveau de vie.
Ouais.
Et
on marque une pause. On verra le baromètre et puis on parlera de la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que là, il y a des éléments de retour au plein emploi? C'est quand même aussi l'un des objectifs qui est sous-jacent à l'ensemble de ces réformes structurelles. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Stéphane Carcillo, responsable de la division Revenu Travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po, membre du Cercle des économistes, qui est partenaire de cette émission tous les jeudis. Gilles Bercette, professeur d'économie à Neoma Business School. Vous avez publié Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique chez Odile Jacob. Gaël Sliman, le président d'Odoxa. Stéphane Carcillo, si on renonce aux 64 ans, autant pas faire de réforme ou finalement la durée de cotisation permettrait d'obtenir un résultat relativement satisfaisant?
Non, c'est pas du
tout. Ce serait effectivement l'effet d'annonce le plus stratosphérique.
Mais je pense que c'est pas du tout équivalent pour des questions aussi démographiques. Augmenter le nombre d'années de contribution et augmenter l'âge ont des effets différents sur des horizons des périodes d'horizon assez similaires. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a cette période de cette augmentation de l'âge légal à 64 ans? C'est parce que ça permet d'accélérer finalement à la fois le maintien dans l'emploi et du coup les économies et l'augmentation du PIB par rapport à un paramètre qui ne s'appuierait que sur la durée de contribution pour des raisons démographiques, parce que il y a pas mal de gens qui spontanément vont avoir plus de facilité aujourd'hui compte tenu de leur carrière, compte tenu de leur âge pour avoir les 43 ans, et un certain nombre sont effectivement contraints par un peu plus de personnes sont contraints par le fait de travailler de 62 jusqu'à 64, et donc à un horizon effectivement de 5, 6, 7 ans, si vous enlevez la mesure à 64 ans, vous enlevez beaucoup des économies. Et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faudrait probablement... ça ne sera pas compensé à très court terme. Je pense que ça ne sera pas très compensé à très court terme. Donc ce ne sont pas des choses équivalentes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les pays qui ont fait des réformes autour de nous...
Ont
mis une borne d'âge. Il y a une deuxième raison pour laquelle la borne d'âge est extrêmement importante, c'est que c'est un point focal. C'est-à-dire que ça permet à tous les acteurs sur le marché, y compris les employeurs, de se coordonner autour d'un âge pivot, qui est un âge connu de tous, autour de lesquels on sait que les gens peuvent se coordonner. On sait que, quelle que soit la personne qu'on va embaucher à 55, 56 ans, 57 ans, si on est un employeur, on sait qu'on ne va plus aller à 62, c'est-à-dire en général 61, parce qu'après les gens préparent leur retraite, mais on va aller à 64, et donc on va investir dans ces personnes. Et du coup, ça permet aussi de favoriser beaucoup plus l'emploi des seniors, parce que les employeurs savent qu'ils ont une durée en emploi plus longue et qu'ils peuvent investir dans ces personnes. Ce point focal, il est extrêmement, je pense, important.
Extrêmement. Enfin, il l'a prouvé avec celle de 2010.
Voilà. Et je pense que c'est la raison pour laquelle c'est un élément très important qui favorise l'augmentation de l'emploi des seniors.
On verra si le gouvernement fait des propositions sur les fameuses carrières longues qui conduisent à 44 années de cotisation ou des aménagements sur les carrières de femmes où il y a plein de situations différentes. J'aimerais vous faire réagir brièvement sur deux des trois propositions de François Asselin de la CPME. C'était dans les colonnes du JDD dimanche dernier, où il dit « Pourquoi on ne fait pas pour les seniors comme on l'a fait pour les apprentis ?» Petite prime là pour garder les vieux un peu plus longtemps. Ou alors il dit « On pourrait dire qu'à partir de 58 ans, on baisse les cotisations payées par l'entreprise, mais qu'elle doit rembourser les cotisations qui ont été baissées si elle se sépare du salarié avant sa retraite. » Des pistes très concrètes, assez basiques. Ça vous semble cohérent, Gilles Berset, ce genre de piste?
Écoutez,
c'est très simple. Hein, c'est, je subventionne et je vous fais de l'exonération si vous le gardez. Par contre, vous remboursez si vous le mettez dehors.
Juste un point préalable pour aller dans le sens de ce que vient de dire Stéphane. S'il n'y avait que la mesure d'année de cotisation, il est clair que c'est un appauvrissement du pays. Hein. Donc c'est une baisse du produit intérieur brut par habitant. C'est-à-dire le pouvoir d'achat moyen en France serait abaissé par la baisse des pensions, puisque l'exercice du Touraine aboutirait bien sûr à une baisse des pensions sans augmentation de l'âge. Donc voilà à quoi on serait exposé. C'est-à-dire notre faible, si j'ose dire, notre décalage de produit intérieur brut par habitant, de revenus par habitant par rapport à d'autres pays nordiques, Scandinaves, Pays-Bas, Allemagne, etc., serait encore accentué. On serait plus pauvre.
C'est un argument très difficile à faire passer, mais
C'est un élément quand même, avec des finances publiques plus dégradées. Alors, maintenant, sur l'autre point, les cotisations sociales, il faut arrêter, c'est déjà quelque chose d'illisible, on les sollicite pour tout.
Pour tout.
Pour toutes les politiques.
On pense que la TVA peut tout faire et que les baisses de cotisations répondent à tous les problèmes.
Voilà, on les sollicite pour tout, les peu qualifiés.
Parce que les avoir mises à zéro sur le SMIC,
c'est quelque chose, mais d'incompréhensible pour n'importe quel chef d'entreprise. Il faut des logiciels pour comprendre la chose. Ça veut dire que pour des DRH, en termes de comportement d'optimisation pour employer des gens, seniors, si c'était le cas, seniors, non seniors, jeunes, non jeunes, personnes proches du SMIC, personnes loin du SMIC, la chose est incompréhensible. Nous ne parlons pas des investisseurs étrangers quand ils sont face à cette carte d'une complexité inouïe concernant les cotisations sociales. C'est déjà compliqué. Pourquoi les compliquer encore davantage?
Et un petit coup de pouce financier.
Alors, un petit coup de pouce financier, ça revient un petit peu au même.
Je veux dire, c'est pas pareil.
Les dispositions.
Là, l'idée, c'était, on vous baisse des cotisations. Par contre, si vous vous séparez de la personne, vous remboursez.
On est dans une complexité inouïe. Alors, par ailleurs, il faut quand même garder en tête des phénomènes comme les phénomènes de Lalande, hein, qu'on a tous en tête. Mmh. Il y a parfois des politiques qui sont très bien intentionnées.
Mais là, c'était de la sanction.
C'était de la sanction.
L'autre, c'est de l'incitation.
Et qui ont un effet contre-productif par rapport à leur objectif.
Mais c'est à peu près la même chose. Hein, sanction, incitation. Voilà, final, je pense comme Gilbert, je pense que ça provoqua la même chose. Vous embauchez quelqu'un, vous dites « Ah, mais vous allez déjà compter qu'il y a
ça revient au même.
Des contributions réduites. Mais en revanche, si on vous dit que quand vous le licenciez, vous remboursez, vous n'allez pas l'embaucher. » Donc,
voilà.
ça revient vraiment
la chose
même,
est exactement la même. Et ça s'était retourné contre les personnes qui devaient en bénéficier. Donc, c'est exactement le même principe.
Là, ce qui est certain, c'est que sur l'emploi des seniors, les solutions ne sont pas d'une simplicité confondante.
Non, mais il faut cibler clair. Sur l'emploi des seniors, vraiment. Il faut essayer d'avoir un dispositif ciblé. Avoir un dispositif incitatif financier sur l'ensemble des seniors, ça va coûter une énorme blinde. Absolument. Avec un effet soit des incitatifs sur l'embauche si on doit rembourser, soit avec d'énormes effets d'aubaine. En revanche, si on veut cibler les seniors, il faut cibler les seniors faiblement à moyennement qualifiés qui sont au chômage. Là, vous pouvez envisager des dispositifs. Ça a existé dans le passé. Pourquoi pas? On peut imaginer, surtout, le gros sujet des seniors qui sont au chômage, c'est que souvent, ils doivent changer de secteur parce qu'ils viennent de l'industrie, par exemple, et ils doivent trouver un emploi dans les services. Ils vont partir dans l'industrie. Ils ont des pertes de salaire. Donc donc pour eux aussi, c'est difficile d'accepter des emplois beaucoup moins payés, peut-être parfois moins que leur allocation chômage. Donc on peut imaginer des dispositifs d'assurance salaire, on peut imaginer des dispositifs de compensation pendant quelques années pour les aider à se maintenir en emploi. Tout ça est sur la table. Pour l'instant, on n'entend absolument pas parler. C'est vraiment dommage parce que
il n'y a pas de solution.
Ça fait partie des choses qu'il faut discuter, à mon avis.
Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que j'ai cru comprendre que la France était quand même vraiment derrière les autres pays en termes d'inclusion dans le marché du travail oui. plus âgé. Et on se dit, mais pourquoi on serait si différent des autres?
Mais c'est à cause de l'âge de départ.
Exactement.
C'est le facteur numéro un. Bon.
Alors, quand même, il y a un tout petit point qui est à souligner. Sur les deux dernières décennies, le taux d'emploi des seniors, cette fois-ci des plus de 55 ans,
considérablement
augmenté. Il a augmenté quasiment d'un point par an.
Oui, oui.
Spontanément. C'est l'effet des réformes précédentes. Oui. Les personnes anticipant le fait que l'âge de départ à la retraite passait de 60 à 62 ans, ben, ont amélioré leur employabilité, leur formation, leur capital humain spontanément. Alors, ce même phénomène s'observe à l'étranger, suite aux réformes qui ont lieu à l'étranger, mais avec un décalage sur l'âge. Hein, puisque notre taux d'emploi des 60-64 ans, il est 33%, il est 30 points au-dessus dans des pays nordiques et scandinaves, qui sont quand même considérés comme des benchmarks en termes d'égalité, en termes de, etc. C'est aussi 30 points au-dessus aux Pays-Bas, en Allemagne, dans beaucoup de pays.
Le baromètre Odoxa, AJP, Challenge, BFM Business, Gaël Sliman. Bon, il y a pas mal de questions sur l'impact ou pas de cette réforme. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est quand on demande aux gens ce qu'ils en pensent en termes d'effets concrets. C'est la dernière question qui a été posée. Je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu les résultats.
Alors, sur la réforme des retraites, si on balaye la perception, et ça éclairera ce que je vous disais tout à l'heure sur la bataille de l'opinion perdue, quel que soit le paramètre pris en compte, la perception est très négative. Sur l'idée que ça permettra de garantir notre système de retraite par répartition, les deux tiers des Français pensent l'inverse.
C'est dingue.
Sur l'idée qu'elle permettra de réduire les déficits publics en France, les trois quarts pensent l'inverse, 72%.
Trois quarts des sondés nous disent la réforme des retraites sera sans effet sur les déficits.
Sur le fait qu'elle sera juste socialement.
Alors ça, c'est plus un point de vue.
Les trois quarts estiment que ça ne sera pas le cas. Et sur le fait qu'elle sera efficace et pérenne, on est aussi sur les trois quarts, à 75%. J'ajoute que pour les questions sur lesquelles on a des comparaisons, en fait, il se passe que depuis le début janvier, que le gouvernement fait de la pédagogie, terme à bannir à jamais.
Ah, j'en peux plus.
Non, mais il faut bannir ce terme. Et on a vu enquête après enquête que les gens devenaient fous de rage quand on leur dit « je vais vous faire de la pédagogie ». La pédagogie, c'est « je m'adresse à des débiles mentaux » et où, en l'occurrence, je suis un professeur, je m'adresse à des élèves sur une posture de surplomb et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez pas compris. Non, les gens ne sont pas d'accord parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont peut-être tort de ne pas être d'accord. Qu'on leur explique qu'ils ont tort et qu'on leur démontre. Mais qu'on ne leur dise pas, vous n'avez rien compris, je vais vous expliquer. Et donc, plus on fait de la pédagogie, plus les gens sont opposés à la réforme.
C'est ça, c'est ce que j'ai
constaté. Et sur les effets économiques, moi, il y a une chose que je peux comprendre et que je crains personnellement, donc je suis assez d'accord avec ce qui est craint ici, c'est l'idée que cette réforme, est-ce qu'elle aura un impact positif ou négatif sur la situation économique de la France ? Les Français, pour les deux tiers d'entre eux, pensent que ça aura un impact négatif, en tout cas pour ceux qui pensent qu'elle aura un impact, il y en a un quart qui disent que ça n'aura pas d'impact, mais pour ceux qui pensent que ça aura un impact, les deux tiers, 65%, pensent que cet impact sera négatif car ça va nuire à la croissance en provoquant des grèves et des manifestations, alors qu'un tiers nous dit que ça aura un impact positif parce que ça va réduire les déficits publics de la France. Et ça fait un peu la quadrature du cercle avec l'item précédent que je vous indiquais, qui est que, en gros, ça ne marchera pas. Ce qui conduit les Français à penser que même sur les aspects économiques, donc là on n'est plus sur de l'opinion personnelle, cette réforme m'ennuie, j'ai pas envie de partir plus tard, mais même sur les effets économiques, les gens pressentent, à tort ou à raison, qu'on va aller vers un mur, vers un blocage, et vers à la fin, d'une certaine manière, ce qui s'était passé avec les Gilets jaunes. Avec les Gilets jaunes, on avait une réforme la taxe sur les carburants, qui a conduit à des émeutes, à avoir pendant des mois et des mois des blocages, pour qu'à la fin, la réforme en question soit purement et simplement retirée, et pour qu'en plus, le gouvernement distribue 17 milliards de chèques cadeaux.
Le fameux Macron de Jean-Marc Daniel, l'unité de mesure de la dépense publique donc, qu'il a
lui-même conçu. Et ça, je pense que c'est profondément ancré dans les consciences, c'est-à-dire que contrairement à ce que semble croire le gouvernement, les gens ne sont pas résignés. Et encore une fois que les syndicats auront arrêté le bras de fer, une fois que la loi sera votée, peut-être au 49-3, ça ne veut pas dire que les manifestations s'arrêtent.
J'entends bien. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en fait, je me dis, on peut essayer de faire, enfin, pas de la pédagogie, mais d'expliquer. Celui qui est contre, et il le restera.
Oui.
Jusqu'à 72% des sondés qui vous disent non, ça n'aura pas d'impact sur les déficits, alors que c'est exactement l'inverse.
Débat est politique.
Bon.
Et juste une chose, ça a un impact, si on n'y revient pas, je le dis quand même, ça a un impact sur le moral économique. Hein. On a un moral économique, on a un moral économique qui a plongé, mais là on a fait un benchmark européen, pour résumer, c'est deux fois en dessous du niveau de moral économique qui est observé dans les quatre autres grands pays européens qu'on a pris en comparaison, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne. Et c'est vraisemblablement ce qui se passe autour de cette réforme des retraites qui contribue à plomber ce moral qui, de toute façon, n'était pas très haut.
Rapidement, sur l'assurance chômage, Stéphane Carcillo, là, en fait, on fait une expérimentation de 10 mois. Ça a commencé hier, mais les nouvelles règles s'appliquent que jusqu'à fin décembre. Et après, normalement, une nouvelle convention négociée par les partenaires sociaux doit s'installer. 100 à 150 000 emplois supplémentaires, nous dit Olivier Dussopt. Est-ce que cette réforme de l'assurance chômage, on ne revient pas sur le contenu, on l'a fait hier, enfin, je l'ai fait hier, mais ça vous semble crédible?
Ah oui, tout à fait, ça me semble tout à fait crédible.
100 000 à 150 000 emplois supplémentaires.
En période de forte tension sur le marché du travail, c'est tout à fait possible, bien sûr, c'est tout à fait crédible. Les demandeurs d'emploi sont très sensibles à la durée maximale.
Plus qu'au montant, d'ailleurs.
Plus qu'au montant, à la durée maximale d'indemnisation. En moyenne, si on prend toutes les estimations dont on dispose, lorsque vous réduisez de un mois la durée maximale de paiement des allocations, la durée effective de l'épisode de chômage est réduite de un tiers de mois. Ça, c'est une moyenne. Et quand vous prenez les estimations qui sont faites sur des périodes relativement favorables économiquement, l'élasticité, la sensibilité est encore plus forte. Donc la raison est simple, hein, c'est que les demandeurs d'emploi se mettent à chercher plus tôt, de manière plus intensive, et donc sortent plus tôt du chômage. Et ça, évidemment, on comprend que le mécanisme marche mieux lorsqu'il y a des offres d'emploi, c'est-à-dire que lorsque le marché du travail est tendu, que lorsque le marché du travail n'est pas tendu, c'est exactement l'objectif de la réforme, c'est d'ajuster à la durée, et à la situation du marché du travail.
Stéphane, est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a plein d'études empiriques qui valident ce que vous dites, mais qui ont aussi parfois constaté que le fait de devoir un peu précipiter son retour sur le marché de l'emploi va inciter certains à prendre des boulots un peu moins qualifiés que ce qu'ils auraient pu espérer?
Alors, les études empiriques sont pas du tout concluantes sur ce sujet. Il y en a très peu. Certaines trouvent des effets négatifs, d'autres trouvent des effets positifs. D'autres trouvent pas d'effets, la plupart du temps, du tout, soit sur le salaire, soit sur la durée des contrats. En ce qui concerne la France, il y a une étude qui a été réalisée par Thomas Barmanchon en 2016 qui montre que lorsque la réforme de l'assurance chômage avait fait passer les durées potentielles de 7 mois à 15 mois pour les relativement faibles salaires et les personnes qui avaient travaillé relativement peu, des personnes relativement peu qualifiées, c'était dans les années 2000, le fait de passer à 15 mois n'avait augmenté ni les salaires, ni la durée des contrats, donc doubler la durée finalement de recherche n'avait pas particulièrement servi à améliorer la qualité de l'emploi. Bon, alors ça ne veut pas dire qu'il faut que si on passait à 2 mois ou à 3 mois, ça n'impacterait pas, mais je veux dire entre 24 mois et 7 mois, on a de la marge. Je pense que passer de 24 mois à 18 mois ne changera absolument rien, ni sur les salaires retrouvés, ni sur la durée des contrats des emplois retrouvés.
On se donne rendez-vous au mois de novembre-décembre pour voir ce que ça a donné. Voilà. On aura une expérimentation. Oui. Vous disiez dans le Figaro, samedi, Gilbert Sept, vous reveniez sur l'idée qu'il y aurait une flemme française et vous n'êtes pas d'accord.
La flemme française, on ne la voit pas dans les chiffres. Le taux d'emploi est en France le plus élevé qu'on ait observé depuis la Deuxième Guerre mondiale, hein, le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion en emploi des personnes de 15 à 64 ans. C'est quand même un score absolument remarquable. Alors, simplement, les aspirations des gens sont toujours pour une... Et quand je dis des gens, c'est à la fois des jeunes, des gens qui sont entre la jeunesse et la séniorité, puis les seniors, une bonne articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe partout. Cette désaffection pour le travail, quelque chose qu'on observe plus dans des pays comme les États-Unis, où effectivement le taux d'activité, lui, a quand même fortement diminué sur certaines populations. Enfin, a significativement diminué sur certaines populations. Dans les pays européens, et en particulier pour la France, c'est pas ce que l'on observe. Vous voyez, c'est pas du tout ce que l'on observe. Donc, l'observation statistique nous amène à dire non, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de refus du travail, simplement. Il y a l'expression d'aspiration à une bonne conciliation. C'est ce qui explique en partie d'ailleurs les problèmes de difficultés de recrutement dans certains secteurs comme les hôtels, cafés, restaurants. Je veux dire, quand on dit à des gens, quand on les embauche, que 5 ou 6 soirs par semaine, ils pourront pas voir leur conjoint, leur conjointe, leurs amis, ils pourront pas avoir de vie personnelle, sociale, etc. Bon, c'est sûr qu'en 2023, c'est quelque chose d'assez peu motivant. Bon, peut-être que dans ce contexte-là, on ne peut qu'applaudir à deux mains les négociations qui sont en cours dans cette branche pour justement améliorer...
Ah, ils ont fait d'énormes progrès.
Ils ont fait d'énormes progrès.
L'attractivité du métier.
Voilà. Et il y a une prise en compte de ça, vous voyez. Ce qui veut dire que l'attractivité n'est pas simplement salariale. Il y a un rapport au travail qui est aussi que le travail, c'est une partie de la vie et ça n'est pas toute la vie, même si c'est une bonne partie de ce qui fait sens à la vie.
Donc le français n'est pas paresseux.
Alors justement, pour revenir à ce qui vient d'être dit, moi j'ai une toute petite nuance par rapport à ce qu'a dit Stéphane. Le first best...
Sur l'assurance chômage.
Sur l'assurance chômage. Le first best, ça serait un suivi bienveillant, mais exigeant, individualisé
à la nordique,
des chômeurs à la nordique dans la réalité de leur recherche active d'emploi. C'est une cible qui est inatteignable pour la
France, non. Oui.
Qui appellerait une réforme fondamentale de Pôle emploi, du fonctionnement
de Pôle emploi,
de travail. Des services
France
de l'emploi.
Travail, le nouveau service public.
On est d'accord, mais je dirais que l'ampleur de l'ambition de la chose est démesurée. Donc, ce first best étant inatteignable, on est amené à préférer des secondes bestes qui sont des mesures homogènes pour tout le monde, quelle que soit l'activité, la qualification, la localisation, etc. Vaut mieux un second best que pas de best du tout. Voilà. Je dirais que la chose doit être prise comme ça. Mais on peut avoir en vue pour le très long terme, quand même, Le first best qui serait
un accompagnement
actif, individualisé exigeant des chômeurs.
Je rappelle quand même qu'avec 18 mois, puisque c'est le nouvel horizon
pour les gens de moins de 53,
on restera élevé.
18 mois, on reste très au-dessus de la moyenne européenne qui est de 13 mois en maximum, très au-dessus de l'Allemagne qui est à 12 mois. Et je pense qu'il n'y aura pas d'effet sur la qualité de l'emploi. C'est pas des mesures sauvages.
On a 10 mois d'expérimentation. On ne va pas enterrer l'histoire maintenant en considérant qu'on a tout cassé et qu'on a brisé les acquis sociaux. On va regarder ce que ça va donner comme résultat si effectivement on a un retour à l'emploi qui est accéléré. J'ai été étonné qu'il n'y ait pas eu de débat sur le fait de savoir s'il fallait faire des mesures par région. Il n'y a pas eu de débat. Olivier Dussopt a fermé le banc tout de suite. Il n'y aura pas de régionalisation, alors que le Canada a fait une régionalisation justement de ce type de mesure.
Enfin, vous avez vu la taille des régions au Canada quand même.
Oui,
c'est énorme.
Ce qui se passe en France, c'est quelque chose quand même d'inouï. Quand on regarde la carte des taux de chômage par bassin d'emploi, c'est assez local, par bassin d'emploi, on voit que son mitoyen de bassin d'emploi, le taux de chômage est très bas, et plus bas que la moyenne. D'autres bassins d'emploi, le taux de chômage est plus élevé. Donc, il y a un problème de mobilité. Et pire encore, quand on compare cette carte avec la même carte il y a 20 ans, on voit qu'il y a une stabilité. C'est-à-dire que la mobilité, c'est pas faite. Une génération.
C'est un des éléments du sujet.
Et donc, là, il y a une vraie réflexion à avoir sur les questions de mobilité, dont la mobilité géographique. Et la fiscalité, par exemple en France, n'est pas favorable à la mobilité géographique.
Vous, mais notamment la fiscalité du logement.
Notamment la fiscalité
Vous parliez de cette tendance très forte qui s'est confirmée avec la pandémie, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Que pensez-vous de l'expérimentation annoncée par Gabriel Attal dans les colonnes de l'Opinion hier? On va tester la semaine de 36 jours.
De 36 heures en
4 jours. Donc on n'est pas du tout sur l'idée 39 payé 35, loi Aubry, hein. Ça n'a rien à voir. Sur la base du volontariat, ce sont les URSSAF de Picardie qui vont tester ça pendant un an. On a du recul, on sait ce que ça peut donner, c'est une bonne idée. Enfin, comment vous accueillez le... Moi, je trouve que c'est bien d'expérimenter des choses.
Moi, je dirais qu'il n'y a aucune loi générale. On voit bien que travailler 4 jours, c'est quelque chose qui peut tout à fait satisfaire des personnes qui n'ont plus d'enfants ou qui n'ont pas encore d'enfants. Pour les personnes qui ont des jeunes enfants scolarisés, le rythme est plutôt un week-end de 2 jours et une semaine de travail de 5 jours. Donc, ce qu'il faut, surtout quand on expérimente ce genre de choses, c'est ouvrir au maximum le choix et laisser ouvert, par la négociation collective, les possibilités d'entrée des uns et des autres dans ces différentes options.
Gaël Simon, par rapport à cette idée-là, attention, la semaine de 4 jours, mais c'est pas le même état d'esprit que les 35 heures.
Il y a deux choses. Il y a un petit télescopage, à mon avis. Je le trouve toujours excellent, Gabriel Attal, dans sa manière de présenter les choses. Pour le coup, en termes de pédagogie.
Il est très accessible.
Il est d'ailleurs. C'est un gouvernement qui est très impopulaire et les rares personnes qui émergent, qui ressortent, il en fait partie. Mais là, je pense qu'il y a un petit problème de timing. On est dans un timing où on est sur un autre rapport, une autre obsession qu'ont les Français sur leur équilibre tant travaillé, tant pas travaillé, qui est la retraite. Et donc, parler de ça là, ça donne le sentiment qu'on allume un contre-feu un peu hors sujet par rapport à ce qui obsède les gens. Ensuite, si on rentre sur le fond du sujet, c'est-à-dire cette affaire de la semaine de 4 jours, il y a aussi un petit problème de timing de ce point de vue-là, de décalage dans le temps, parce que c'était des aspirations qu'on observait dans les études, il y a de ça une dizaine, une douzaine d'années, c'était pour plein de gens importants, soit, Gilbert Sette l'a dit, pour des gens qui n'ont pas d'enfants, mais soit aussi pour des gens qui ont des enfants et qui voudraient pouvoir passer une journée, par exemple le mercredi, et pas que des femmes, avec leur enfant, et donc en ayant travaillé 4 jours autrement. Mais aujourd'hui, on a le télétravail pour beaucoup de gens. Alors, tout le monde ne peut pas télétravailler, tous les métiers ne sont pas télétravaillables, mais ça a modifié la donne. Il y a énormément d'entreprises qui le peuvent et qui incitent leurs salariés à travailler de chez eux.
Or, beaucoup de salariés qui le souhaitent.
Et il y a beaucoup de salariés qui le souhaitent, avec un équilibre dans les boîtes où ça se fait, où souvent, on télétravaille encore 2 jours par semaine. Et donc, cette affaire de 4 jours, si c'est pour avoir du temps à passer chez soi, soit avec ses enfants, soit pour s'occuper de choses qui nécessitent d'être présent à son domicile, on peut le faire tout en travaillant. Donc je pense que la réception...
c'est une vraie journée off, c'est pas une journée de travailler à la maison.
J'ai bien compris, mais oui, la réception par l'opinion de cette proposition me paraît... ça me paraît pas évident que ça enchante les foules.
Stéphane Carcio, votre vision de cette histoire, ce serait un progrès social, pourquoi pas, faisons ça comme le dit Gilbert, mais vraiment sur la base de l'accord d'entreprise, pas de t-shirt à taille unique façon loi Aubry.
Je suis complètement d'accord avec Gilbert, il faut absolument laisser les partenaires sociaux, enfin les partenaires dans l'entreprise discuter des meilleures modalités de le faire. Tout le monde n'est pas capable de le faire, pour des raisons de métier, d'organisation, etc.
Clairement. Moi par exemple c'est compliqué.
Voilà, donc il faut absolument pas faut surtout pas appliquer la même toise à tout le monde, faut laisser, rien n'empêche de le faire aujourd'hui dans la loi, tout est autorisable, il faut juste discuter.
Il y a des boîtes où ça se fait déjà.
Absolument. Voilà, et probablement que celles qui le font ont les moyens, peut-être aussi en termes de productivité de le faire et en termes d'organisationnel. Je trouve que par rapport aux aspirations et au télétravail, je crois qu'il y a aussi une inspiration à avoir un peu de temps libre et de libérer du temps libre. Tout le monde ne peut pas télétravailler. Mmh. Il y a des gens qui peut-être seront contents d'avoir la semaine sur 4 jours de travail pour avoir cette journée et pouvoir s'organiser. Donc je trouve que c'est, dès lors que ce n'est pas imposé, dès lors que effectivement c'est une expression d'expérimentation, pourquoi pas les encourager, bien entendu.
Bon. On a 3 minutes, on dit un petit mot de les tendances de politique monétaire, là. Je vais être très, très large. Est-ce que vous êtes inquiet de Banque Centrale qui irait trop vite, trop loin, par rapport à l'inflation? Parce que l'inflation donne quand même des signes de retournement, et on se dit que finalement, des resserrements de politique monétaire un peu sévères, un peu trop poussé, un peu trop rapide. 8e hausse de taux aux États-Unis d'affilée, ça fait quand même...
Mais je suis pas macroéconomiste, mais par nature, la politique monétaire doit aller trop loin, parce que de toute façon, elle a un effet avec retard. Donc elle prend ses décisions sur ce qu'elle voit aujourd'hui.
C'est vrai que l'effet est tardif par rapport au jour de la décision.
Pour influencer les anticipations, et en même temps, elle va avoir un effet avec retard sur le PIB. Donc par nature, elle va aller un peu trop loin.
Mais on a remarqué quand même, par exemple, que les demandes de crédit entreprise-ménage ont marqué un recul au mois de janvier.
Oui, bien sûr, mais le problème, c'est qu'évidemment, l'impact sur l'inflation, on espère tous qu'on va l'avoir. Le problème, c'est que l'impact sur le PIB, on va l'avoir avec retard. Et donc, c'est extrêmement dur. Et je pense que par nature, pour freiner cette inflation, le risque est grand d'aller forcément trop loin du point de vue de ce qui serait nécessaire pour maintenir la croissance.
Gilbert, par rapport à ça, par rapport au niveau de l'inflation d'aujourd'hui, le fait que le crédit commence à monter des signes de faiblesse.
Enfin, d'une part, les banquiers centraux prennent en compte le fait que cette surge d'inflation, cette augmentation de l'inflation n'est pas du tout liée à un choc de demande, et c'est principalement lié à un choc d'offre. Et on voit bien que les taux d'intérêt, malgré ces hausses, restent très largement négatifs. Je veux dire, faut quand même souligner ça. On est dans une époque où les taux d'intérêt sont négatifs. Taux d'intérêt réel sont négatifs, et pas d'un point ou deux, de pas mal de points. Donc, on est quand même encore dans une situation de politique monétaire qui n'est pas très très dure compte tenu du niveau de l'inflation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les banquiers centraux, ils sont indépendants, ils ont un mandat. Et leur mandat, c'est justement d'essayer de faire en sorte que l'inflation revienne vers une cible qui est d'environ 2%.
Oui, mais enfin, on les a critiqués. Quand on a un mandat, ça n'empêche pas de se tromper.
Absolument.
Souvenez-vous, on a fait un procès à un certain tricheur en 2011, on nous ressort l'époque Paul Volcker comme un souvenir épouvantable.
On a reproché aux banquiers centraux d'aller trop loin les 10 dernières années avant la Covid, les politiques monétaires n'étaient pas assez allantes, alors qu'on est allé quand même dans des directions hallucinantes en termes de politique monétaire. Incroyable, enfin qu'on n'aurait pas cru auparavant. Des quantitative easing, enfin montant les bilans des banques centrales à des niveaux incroyables. Donc là maintenant, il y a un retour, je dirais, à la normale, et je dirais que les 2,5% que vous avez évoqués tout à l'heure sont pas quand même un niveau faramineux historiquement.
On va attendre la décision du jour, probablement 50 points de base, surtout le...
Alors, 15.
On dit plus vraiment forward guidance, mais en tout cas, les propos de Mme Lagarde sur à quoi s'attendre pour demain. Hier, Jay Powell a clairement dit qu'il ralentissait, mais qu'il continuait. Voilà. C'est ça la tendance.
25.
25 le mois suivant?
Non, mais il a fait 25.
Et il a fait 25,
pas.
Oui. Bon.
Non, c'est pas énorme.
Oui, mais moi, tous les acteurs de terrain, pas les économistes, mais les acteurs de terrain sont tous unanimes. Arrêtez, vous allez tout casser.
Les acteurs de terrain.
Les acteurs de terrain, les chefs d'entreprise. Ceux qui me disaient, voilà, il y a un an, oh là là, l'inflation elle est bel et bien là. Quand les banquiers centraux me disaient, mais non, ça va aller.
Ce sont des personnes qui ont un point de vue, je dirais, un peu partisan en matière.
Un peu intéressé, voilà.
On a terminé. Stéphane Carcillo, merci d'avoir été là. Gilles Berset, Gaël Sliman. Donc pour le sondage Odoxa avec AJP, Challenge, BFM Business. Rendez-vous demain 9h.